Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les indépendantistes catalans célèbrent la fête nationale de la région dans les rues de Barcelone, l'occasion de compter leurs forces un an après leur tentative de sécession. Les conflits et le changement climatique alimentent la faim dans le monde qui augmente pour la troisième année consécutive selon un rapport des Nations Unies. Viktor Orban accuse l'Union européenne de chantage. La Hongrie est menacée de sanctions par le Parlement européen pour non-respect des valeurs européennes. L'OCDE plaide la cause des directeurs d'école. Le métier est insuffisamment valorisé en France aux yeux de l'organisation. Drapeau sang et or et ruban jaune colorent les rues de Barcelone. C'est la Diada, la fête nationale catalane. Et les indépendantistes veulent à cette occasion montrer qu'ils sont encore capables de se mobiliser massivement pour réclamer l'indépendance de la région. L'année dernière, ils étaient pleins d'espoir dans l'attente de leur référendum d'autodétermination. Mais le scrutin ayant été jugé illégal, l'autonomie de la région avait été suspendue par le gouvernement central, alors dirigé par le conservateur Mariano Rajoy. Quant aux dirigeants indépendantistes, plusieurs entre eux ont été poursuivis pour rébellion. Olivier Poujade, vous êtes donc à Barcelone où c'est la foule des grands jours.
Bien, c'est une nouvelle démonstration de force organisée par les associations indépendantistes catalanes. L'avenue Diagonale, très large, qui traverse la ville de part en part, n'est pas loin d'être pleine. Une minute de silence impressionnante a été respectée en mémoire des combattants de 1714 qui ont défendu la ville. Mais cette année, presque tous les manifestants portent aussi sur eux un ruban jaune. Isabelle nous explique la signification de ce symbole.
Ce ruban, on le porte pour soutenir nos prisonniers politiques qui sont en prison depuis près d'un an, pour avoir simplement permis aux gens de voter, de déposer un bulletin dans l'urne. C'est ça que l'on dénonce. Je suis très émue, parce que c'est une vraie injustice. C'est pour ça que l'on porte ces rubans jaunes.
Cette Diada catalane marque aussi le souvenir du référendum du 1er octobre, l'an passé, injustement réprimé par Madrid, nous dit Marta.
Ils auraient pu décréter que ce référendum n'était pas valide, puisque c'était illégal. Mais non, ils ont envoyé les policiers pour nous taper dessus. Ils ont prétendu que c'était une rébellion, alors que nous sommes non-violents. C'est un pays désastreux. Je ne veux pas y vivre. En tant que catalane, je ne me suis jamais sentie espagnole.
Mais alors l'opposition, l'occupation de la rue, c'est un peu tout ce qui reste aux indépendantistes, Olivier?
Bien, c'est que le mouvement politique indépendantiste a perdu un peu de sa dynamique. On en parlait, 9 leaders sont emprisonnés, 7 sont en exil, dont Carles Puigdemont, l'ancien président de la région. Il fixe d'ailleurs la ligne à suivre depuis la Belgique à son remplaçant désigné, Quim Torra. Assez mal à l'aise d'ailleurs ces dernières semaines face aux signes d'ouverture envoyés par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Il a récemment déclaré que le mouvement ne pouvait pas rester à la croisée des chemins, mais semble incapable en même temps de fixer une feuille de route assez claire, et d'autres partis indépendantistes font pression de leur côté pour accepter le dialogue avec Madrid et ne plus se borner à exiger uniquement, comme le veut Torra, un référendum contraignant et légal sur l'instauration d'une république catalane.
Olivier Poujade à Barcelone à l'occasion de la Diada. La Hongrie viole-t-elle les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée? Le Parlement européen doit se prononcer sur l'opportunité de déclencher ou non l'article 7, une procédure visant à sanctionner Budapest, critiquée pour ses atteintes à l'état de droit et aux libertés des ONG ou encore pour le sort réservé aux migrants. Le Premier ministre hongrois s'est rendu à Strasbourg pour défendre sa cause. Viktor Orban, qui ne se laisse pas faire et qui accuse même l'Union européenne de chantage, Anya Vogel.
C'est devenu une habitude, chaque fois que le Parlement européen se penche sur la situation en Hongrie, Viktor Orban s'invite au débat. Devant les menaces de déclencher l'article 7 en raison d'un risque de violation grave des valeurs de l'Union, il a affiché sa colère face à ce qu'il qualifie de chantage.
Ce rapport bafoue l'honneur de la Hongrie et du peuple hongrois. Vous pensez mieux savoir ce qui convient au peuple hongrois que les Hongrois eux-mêmes. Nous ne céderons pas au chantage. La Hongrie défendra ses frontières et elle défendra ses droits, y compris contre vous, s'il le faut.
Atteinte à l'état de droit, corruption, mauvais traitement des migrants, dans l'hémicycle, les présidents de commissions et de groupes politiques ont multiplié les accusations, à l'image du vert Philippe Lamberts.
Non, monsieur Orban, ni le népotisme et l'abus des fonds européens, ni les violations des libertés académiques et religieuses, ni l'asphyxie des médias et des ONG, ni la mise au pas du pouvoir judiciaire ne sont compatibles avec les valeurs européennes.
Avant de lancer un appel aux élus du groupe PPE, dont Viktor Orban est membre, et qui reçoivent le Premier ministre hongrois à huis clos ce soir, pour qu'ils adoptent une position ferme, comme ils l'avaient fait à l'époque pour Jörg Haider.
Anya Vogel à Strasbourg. La pollution de l'air provoque chaque année 400 000 décès prématurés au sein de l'Union européenne. La Cour des comptes européenne reproche aujourd'hui aux États membres de ne pas assez protéger leurs citoyens des particules fines et des émissions de dioxyde d'azote. En Bulgarie ou en Hongrie, note la Cour des comptes, le nombre moyen d'années en bonne santé perdues à cause de la pollution atmosphérique est supérieur à celui constaté en Chine ou en Inde. Un diagnostic partagé par l'eurodéputée socialiste Christine Revaud-Allonne.
Quand on a fait la commission d'enquête sur le scandale du diesel, on rappelait le nombre de morts liées à la pollution. 400 000 morts prématurées par an à cause de la pollution. Et tout ce qui était dit par l'Agence européenne de l'environnement, nous le mettions sur la table en disant « il faut que l'Union européenne prenne enfin des décisions ». Donc ce que dit aujourd'hui la Cour des comptes européenne est tout à fait juste et il est vraiment temps qu'on la change, cette directive, et qu'on mette en place une réglementation extrêmement ferme pour lutter contre cette pollution. On a vécu un été qui a été terrible. Des incendies, une pollution de l'air. Et en attendant, il n'y a toujours pas de mesures fortes. C'est urgent. La planète brûle et l'Europe brûle. Mais il faut que la France prenne ses responsabilités. Elle est aujourd'hui toujours en procédure d'infraction par la Commission européenne parce qu'elle n'a pas respecté la précédente directive. Donc il faut que la France présente enfin des mesures qui respectent les normes concernant notre qualité de l'air et pour lutter contre la pollution.
L'eurodéputée socialiste Christine Revaud-Allonne. La faim touche une personne sur neuf dans le monde. Selon les estimations de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, elle touchait en 2017 821 millions de personnes. Après une décennie de déclin, le phénomène augmente pour la troisième année consécutive. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Si l'on veut atteindre l'objectif faim zéro d'ici 2030, objectif adopté par les pays membres de l'ONU en 2015, il est donc urgent d'agir.
Et des chiffres à nous faire rougir de honte, vous l'avez dit, sur la planète, excepté en Amérique du Nord et en Europe, une personne sur neuf souffre de la faim. Cette hausse frappe en premier lieu l'Afrique et l'Amérique latine. En 2017, près de 200 millions d'enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance. 50 millions d'enfants de moins de 5 ans sont trop maigres, ce qui augmente leur risque de mourir. Les raisons de cette recrudescence de la faim vont des conflits à la variabilité du climat, aux problèmes économiques, les effets cumulés du changement climatiques sont préjudiciables à toutes les dimensions de la sécurité alimentaire. Ce sont d'abord les plus pauvres, les plus exposés, les plus vulnérables aux sécheresses, aux inondations et aux tremblements de terre qui perdent les premiers leurs moyens d'existence et de subsistance. En matière de lutte contre la faim et de malnutrition, et pour ce qui concerne le changement climatique, les 5 agences de l'ONU recommandent aux gouvernements nationaux et aux autorités locales de s'appuyer sur la Convention cadre des Nations Unies et sur l'accord de Paris de 2015. Des moyens de productivité agricole durable qui réduisent les risques climatiques sont possibles. Des expériences sont lancées en Amérique centrale. Elles visent à changer l'échelle des investissements dans des écosystèmes terrestres et marins sains et divers, adaptés aux efforts du changement climatique.
Nadine Epstein, à l'approche de l'ouragan Florence, la maire de Washington a déclaré l'état d'urgence dans la capitale fédérale américaine, comme l'avaient déjà fait les états de Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud. Une alerte à la montée des eaux a été lancée sur une vaste portion de la côte est des États-Unis. Quant à l'ouragan Isaac, rétrogradé en tempête tropicale, il poursuit sa route vers les Antilles. Les parlementaires de La République En Marche doivent se préparer à une année de bagarre politique. Le Premier ministre les a prévenus aujourd'hui. Édouard Philippe, qui s'est employé à regonfler le moral des troupes à Tours, où s'achève le séminaire des députés et sénateurs de la majorité. Écoutez Édouard Philippe.
Il m'est arrivé de vous dire il y a un an, lorsque les choses semblaient simples, qu'elles deviendraient plus difficiles. Je ne vous ai pas menti. Réparer un pays qui va mal, relancer une Europe qui doute, réussir les transitions incroyablement urgentes et en même temps si délicates qui nous sont imposées, obtenir des résultats visibles. Rien de cela n'est facile, rien de cela n'est rapide. Faire tout cela dans le maelstrom des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, qui écrasent le temps et qui nivellent les nuances, c'est encore plus difficile. Je crois que nous devons rester nous-mêmes. Rester nous-mêmes, c'est rester calme et solide. Vous savez parfaitement qu'on nous dira 1000 choses au fur et à mesure de notre avancée. Nous ne devrons jamais les ignorer, mais ils ne doivent pas nous freiner. On nous dira 1000 choses, et c'est très bien ainsi. Mais à nous, il reviendra de faire.
Édouard Philippe a donc rappelé le cap, les réformes à mener, le scrutin européen de mai prochain. Comment les députés de la majorité ont-ils reçu le message? Et plus largement, comment se sont passés ces deux jours de séminaire? Alexandra Dubouchereau nous le raconte.
En fait, c'est comme une ruche. Vous avez près de 200 députés et sénateurs et une poignée de ministres réunis dans un espace fermé de 3800 m². À l'intérieur se tiennent des ateliers informels. Une bonne occasion de s'approcher des ministres pour la députée du Rhône, Blandine Brocard.
On a les ministres tout le temps avec nous, que ce soit dans des séquences de travail, que de déjeuner, au repas, au dîner. On peut poser une réflexion, ce qu'on n'a hélas pas toujours le temps de faire de manière aussi constructive en temps habituel.
Grand sourire et bagage à la main, Marc Delattre, élu de l'Aisne, confie que l'intimidation de l'an dernier a un peu disparu.
Effectivement, en 15 mois, on a appris, entre guillemets, à nager. Le crawl, la brasse et même le papillon, je sais. Et puis surtout, ne pas ressortir comme des ânes savants des éléments de langage. Mais sur le terrain, il faut aussi parler avec son cœur.
De temps en temps, un volontaire sort dehors pour se montrer aux journalistes, agglutiner à l'extérieur. C'est l'occasion de faire passer ses idées, de médiatiser son image ou simplement de s'entraîner à parler devant les caméras. En fait, ce qui se passe à l'extérieur est très intéressant. Il n'est pas rare de croiser des élus discutant avec des collègues, de dossiers, de stratégie, de politique politicienne finalement. Thomas Rudigoz, député de Lyon.
On a des affinités en fonction des commissions, des sensibilités aussi un peu politiques, parce que La République En Marche, il y a différentes sensibilités qui existent. Et en ce moment, on va avoir un nouveau ou une nouvelle présidente de groupe. Et ben, ça discute un peu de savoir, toi, ta préférence, elle va vers qui.
Certaines voix comptent plus que d'autres. Elles dissuaderont ou adouberont des candidats. C'est aussi dehors, dans la rue et aux tables de café que les journalistes récoltent des offres ou créent des liens important pour la suite et impossible près du centre des congrès où l'organisation est un peu trop millimétrée.
Alexandra Dubouchereau à Tours. L'affaire Benalla revient demain sur le devant de la scène avec la reprise des auditions de la commission d'enquête sénatoriale. Seront notamment entendus le général Éric Biofarina, commandant militaire de l'Élysée, et François-Xavier Lauche, chef de cabinet du président. Le Sénat a aussi prévu d'entendre Alexandre Benalla lui-même. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
La convocation n'a pas encore été envoyée, mais l'ancien chargé de mission de l'Élysée n'a pour l'instant pas l'air d'être très motivé pour s'y rendre.
Oui, Alexandre Benalla est en effet au cœur d'une instruction judiciaire mise en examen pour les violences commises sur un manifestant le 1er mai dernier. Alors il sera entendu dans cette affaire par la justice à la fin du mois et c'est précisément à cause de cette procédure qu'il refuse pour l'instant de participer à la commission d'enquête du Sénat. Il ne veut pas risquer des déclarations qui lui seraient reprochées par les magistrats instructeurs, explique son avocat cet après-midi sur LCI. Sauf qu'il n'y a aucune incompatibilité selon Jean-Pierre Sueur, l'un des co-rapporteurs de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla.
Il y a des personnes qui ont déjà été auditionnées par des commissions d'enquête parlementaires alors qu'elles étaient mises en examen. Donc ce n'est en aucun cas une excuse. Vous savez que dans les commissions d'enquête parlementaires, le Parlement exerce une mission essentielle pour la République. Souvenez-vous de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Doutreau. Ça avait frappé tout le monde. On nous demande, nous, non pas d'être des juges, nous n'allons pas décider de sanctions. Mais nous, nous sommes attachés au bon fonctionnement des institutions. Or, à cet égard, il y a beaucoup à dire.
Une audition nécessaire donc pour le sénateur Jean-Pierre Sueur. Il s'agit de faire émerger la vérité sur cette affaire préjudiciable à la démocratie, précise-t-il. Puis Jean-Pierre Sueur sort son smartphone. Il nous montre une ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Elle date du mois de septembre 1958 et le règlement éclaire. Toute personne convoquée par une commission d'enquête parlementaire doit se présenter et le Sénat a le pouvoir de saisir la force publique ou la justice.
Anne Fauquemberg, les policiers municipaux doivent-ils être tous armés? Dans le rapport parlementaire qu'ils viennent de remettre au gouvernement, les députés LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourou plaident pour l'armement obligatoire de tous les policiers municipaux. Actuellement, 44% d'entre eux sont dotés d'armes à feu et c'est le maire de chaque commune qui prend la décision. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Alors quelles sont les réactions au sein de la police?
Plus de prérogatives et plus de moyens pour la police municipale. L'idée séduit dans les rangs des 21 500 policiers municipaux. Philippe Steve est membre de l'association Policiers municipaux en colère. Il travaille dans la banlieue parisienne.
C'est une mesure de simple bon sens. Dans la plupart des pays européens, les policiers municipaux sont armés. Et il est absolument anormal que
dans la ville de X, vous soyez armé parce que le maire le veut, dans la ville de Y, vous ne soyez pas parce que le maire ne le veut pas, alors que les contraintes et les dangers sont exactement les mêmes. Un policier, quel qu'il soit, est exposé au danger. À partir du moment où vous contrôlez un véhicule sur quelqu'un qui a commis une infraction, vous ne savez pas qui est le conducteur du véhicule. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous pouvez tomber sur des truands. Tout peut arriver. Vous pouvez tomber sur un fou. Vous pouvez tomber sur de multiples choses. Il n'y a pas que le terrorisme. Il y a le danger du quotidien.
Armés les policiers municipaux, la police nationale n'y est pas opposée par principe. Linda Kebab est déléguée nationale unité SGP Police. Elle partage les conclusions du rapport, mais elle émet des conditions.
On ne peut pas imposer le port permanent des armes à tous les policiers municipaux parce que c'est modifier leur manière de travailler au quotidien pour certains qui ne portent pas l'arme depuis des dizaines d'années et à qui on va imposer un port d'armes. Donc c'est finalement peut-être une acceptation au compte-gouttes au fur et à mesure au sein des municipalités. Mais de toute façon, il faut mettre le doigt, et c'est important, sur la formation, la moralisation, les conditions de recrutement. Et ça, c'est de toute façon inévitable et indispensable pour permettre ce port d'armes au sein des municipalités.
Les policiers municipaux et nationaux assurent tous deux le respect de l'ordre public, mais les policiers municipaux ont une mission plus restreinte que leurs collègues nationaux. Leur concours est également réputé plus facile et leur formation est plus courte.
Antoine Maretz, le 1er août, un rapport parlementaire préconisait la création d'un vrai statut de directeur d'école avec hausse des salaires à la clé. Un rapport de l'OCDE présenté aujourd'hui va dans le même sens. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Pour l'Organisation de coopération et de développement économique, le poste de directeur d'école manque d'attractivité et doit être revalorisé.
Et oui, la France est même la plus mauvaise élève des pays de l'OCDE puisque nos directeurs d'école ne gagnent que 7% de plus que leurs collègues enseignants. C'est même 41% de moins par rapport aux autres pays de l'OCDE, l'écart est même de 70% entre les chefs d'établissement du secondaire et les directeurs d'école. Ce qui explique le manque d'attractivité et le manque aussi de professeurs intéressés par ce métier, avec du coup des conséquences sur le plan pédagogique, comme nous l'explique Éric Charbonnier, responsable d'éducation à l'OCDE.
On le dit souvent à l'OCDE, la qualité d'un système d'éducation se mesure au talent des enseignants et des directeurs d'école. Donc je crois que quand on aura des directeurs d'école bien formés, avec des responsabilités pédagogiques qui soient claires, avec des équipes pédagogiques qui vont être beaucoup plus soudées qu'elles ne le sont, et puis avec finalement des établissements qui vont avoir la responsabilité de faire progresser tous les élèves avec des chiffres qu'on va leur fournir pour se comparer aux autres, on ne peut qu'aller dans une direction qui va être positive.
Des directeurs d'école qui manquent aussi de moyens, car en maternelle, la France investit 8% de moins que les autres pays de l'OCDE, c'est même 14% de moins pour le primaire. L'école primaire pourtant, priorité de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Éric Charbonnier.
Il faudrait faire davantage pour les écoles maternelles. Rendre obligatoire la maternelle à l'âge de 3 ans, c'est une bonne direction. Mais il faut aller plus loin. Les taux d'encadrement ne sont pas favorables. Les enseignants assistants, les ATSEM, n'ont pas souvent accès à une formation de qualité. Il faut vraiment faire en sorte qu'on améliore la qualité à ces niveaux d'éducation. Et un investissement supérieur est un des leviers.
A contrario, la France est l'un des pays qui investit le plus dans le secondaire, plus 35%. Enfin, le rapport montre aussi que 73% des jeunes qui sont diplômés du secondaire trouvent du travail contre seulement 53% des non-diplômés.
Hakim Kasmi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne de la voix en cette rentrée. Alors que l'exécutif continue de préparer une grande loi de réforme de l'audiovisuel public, le CSA se présente comme la maison des médias et propose de refonder la régulation audiovisuelle. Ses propositions visent à adapter son champ d'action au numérique et en même temps, il met en évidence son expérience et sa pertinence, Éric Chavreau.
Fin des jours interdits de cinéma à la télévision, simplification des quotas de chansons à la radio et surtout prise en compte des plateformes numériques en garantissant par exemple la loyauté des algorithmes. Ce ne sont que des propositions, souligne le président du CSA, mais ces souhaits, longuement détaillés aux journalistes, aux responsables de médias et aussi au grand public sur les réseaux sociaux, ont tout l'air d'une note stratégique. De quoi habilement justifier son utilité et sa volonté d'évoluer avec trois priorités pour Olivier Schramek, dont le mandat s'achèvera en début d'année prochaine.
C'est l'élargissement à l'ensemble du numérique du principe de la régulation, ce qui ne veut pas dire des méthodes actuelles de la régulation. C'est faire en sorte de ne pas laisser à la remorque des publics qui seraient déconcertés par l'émergence de ce nouveau monde, d'où l'importance de la TNT et du DAB+ sur lequel nous avons insisté, et de faire en sorte que la régulation ne soit pas vécue comme une contrainte, mais comme un appui.
pour étendre le champ de la régulation aux plateformes de partage de vidéos et de streaming et aux réseaux sociaux. Le CSA s'appuie sur la transposition à venir de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels et l'autorité rejette toute idée de fusion, par exemple avec l'ARCEP, qui est chargée des télécoms. Son maître mot reste la coopération renforcée.
Éric Chavroux, demain mercredi, les nuages seront de retour avec dès le matin de faibles pluies de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais et quelques averses sur le quart sud-ouest. L'après-midi, temps nuageux et lourd jusqu'au Jura, aux Alpes et à la Côte d'Azur. Les températures, 10 à 22 degrés le matin du nord au sud, 18 à 33 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.